A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Quasiment 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour Face à Mathieu Bock-Côté. Cher Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Arthur de Vatrigan.
Bonsoir.
Le point sur l'information, c'est avec Mickaël de Santos. Mickaël, bonsoir. Et ensuite, on commence l'émission.
Bonsoir Elliot, bonsoir à tous. Paris, Lille, Marseille, les motards manifestent dans plusieurs villes de France contre le contrôle technique des deux roues. Une mesure obligatoire dès lundi, censée accroître la sécurité, mais très contestée. Dans la capitale, 20 000 motos se sont réunies pour s'y opposer. Une dizaine d'actions sont prévues tout le week-end. La situation s'est considérablement détériorée sur le front Est. L'annonce a été faite par le commandant en chef de l'armée ukrainienne sur la messagerie Telegram. L'armée russe a intensifié son offensive, notamment depuis la réélection de Vladimir Poutine. De son côté, Volodymyr Zelensky continue, lui, de réclamer 60 milliards de dollars bloqués au Congrès américain. Enfin, à Damas, une voiture piégée a explosé ce matin à proximité de plusieurs ambassades sans faire de victimes. Le conducteur visé serait de nationalité libanaise. Cette explosion survient dans un climat de tension régionale lié à une attaque contre le consulat d'Iran dans la capitale syrienne il y a 2 semaines.
Merci cher Mickaël pour le point sur l'information. À la une de Face à Mathieu Bock-Côté, l'immigration est la deuxième priorité des Français. Pour les Européennes, la question migratoire ne se pose plus à Paris, mais c'est à Bruxelles qui pilote au grand dam des concitoyens. Les chiffres explosent, 380 000 entrées illégales recensées aux frontières de l'Europe en 2023. Des milliers de migrants qui débarquent sur la petite île de Lampedusa, mais encore faut-il poser les bons mots. La submersion migratoire, expression récusée par Valérie Ayer ou encore Raphaël Glucksmann. Alors déni ou réalité ? On en parle dans un instant. Des Nord-Africains tués parce qu'ils consommaient de l'alcool le soir de l'Aïd. L'apparition des crimes d'honneur. Samara traité de coufarde. Un gérant de magasin menacé de mort pour avoir refusé une intérimaire voilée. Les faits se multiplient et montrent une poussée décomplexée de l'islamisme sur notre sol. L'islamisme à la conquête de l'islam de France. Au programme du second édito de Mathieu Bock-Côté. Enfin, ce samedi, cher Mathieu, vous recevez Pierre Valentin, essayiste, auteur de Comprendre l'idéologie woke. Pour ce livre, il s'est attiré à les foudres d'une certaine Sandrine Rousseau. Comment le wokisme a-t-il détruit la société occidentale? On en parle dans cette émission. Voilà le programme Face à Mathieu Bock-Côté. C'est parti. Cher Mathieu Bock-Côté, lundi dernier sur CNews, Valérie Ayer, la tête de liste de la majorité pour les élections européennes, a affirmé devant Marion Maréchal qu'il n'y a pas de submersion migratoire en Europe. Ce n'était pas un dérapage. Elle avait dit la même chose dans les colonnes du journal du dimanche le week-end dernier. On comprend donc qu'il s'agit chez elle d'une conviction forte. Comment peut-elle en arriver à un tel déni ? Ce sera d'ailleurs l'objet de votre premier édito, Mathieu Bock-Côté.
Ah, vous savez, c'est une question qui m'a toujours passionné. En sciences sociales, comme dans la vie politique, c'est la mécanique du déni. C'est-à-dire comment vous avez devant vous une réalité, et c'est une réalité que vous ne pouvez pas accepter, sinon elle fragilise tout votre espace mental et tout votre système de pensée. Dès lors, comment pouvez-vous nier ce que vous avez devant vous? C'est le propre de l'idéologie. Et on a vu effectivement une séquence avec Valérie Ayer en deux temps, qui était assez passionnante en fait. La première, dans le journal du dimanche, où elle nous dit tout simplement la submersion migratoire, c'est une caricature, ça n'a pas lieu. Dans ce, je la réfute, ça n'existe pas, c'est assez clair. Donc pour elle, c'est... Alors, avec le problème qui est le suivant, c'est que l'électorat de Valérie Ayer n'est pas un électorat complètement insensible à ça. Donc elle devra trouver une réponse tôt ou tard. Mais elle nous dit ça n'existe pas. Donc elle n'est pas encore sur la position qui sera celle de Glucksmann. Par ailleurs, c'est très bien. Elle va y arriver aussi. Mais elle commence en disant ça n'existe pas. Et devant Marion Maréchal, dans un échange assez corsé, assez intéressant, c'était un débat passionnant que j'ai trouvé celui-là. Tous ceux qui trouvent que la campagne des Européennes ne lève pas devraient s'intéresser aux débats qui se multiplient, parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit des visions assez contrastées s'affronter. Et elle nous dit, comment explique-t-elle que la submersion migratoire n'existe pas? Elle dit, en 1930, il y avait 5% d'étrangers. Aujourd'hui, 7%. Et elle demande, elle est où la submersion migratoire. Bon, fin de la citation. Alors là, le problème est le suivant. C'est que ça nous ramène à une question centrale, c'est la définition strictement administrative et juridique de la nationalité française. Normalement, entre la nationalité juridique et la nationalité identitaire, existentielle, culturelle, il y a un lien qui est presque inévitable, c'est-à-dire une nationalité juridique s'ancre dans un peuple historique, et obtenir la nationalité juridique, c'est la preuve qu'on s'est acculturé, qu'on s'est assimilé au peuple historique, à la majorité historique d'un pays, à la population historique d'un pays, qu'on en a pris les la culture, qu'on en a pris les traits culturels, identitaires, qu'on en a pris finalement l'histoire aussi, on a appris à dire « nous » avec ce peuple. Valérie Ayer nous dit non, 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 la nationalité, c'est strictement juridique. Dès lors, ce qu'elle refuse de voir, c'est comment à donner sans arrêt la nationalité administrative ou juridique sans l'accompagner d'un processus d'assimilation. Mais qu'est-ce qu'on a vu au fil du temps? Eh bien, la proportion des gens qui sont français de papier au sens strict, c'est-à-dire qu'ils ont tous les papiers de la nationalité ou de la citoyenneté, mais qui ne sont pas de culture française, qui n'ont pas rejoint l'identité française, eh bien, ce processus s'est accéléré. On pourrait dire, depuis les années 80, et ces années-ci, ben là, c'est le grand écart entre ce que veut dire être français en papier et être français sur le plan culturel, c'est un écart qui ne cesse de s'étendre. Et autrement dit, quand elle nous dit comme argument, il y avait 5% d'étrangers dans les années 30, aujourd'hui 7%, elle ne comprend tout simplement pas que quand la population d'un pays change, son identité change, sa culture change. Imaginons si demain, par l'évolution de la démographie, vous avez une France à 70% ou 50% musulmane, par exemple. En tout respect pour l'islam, c'est une religion honorable. Mais imaginons que la France devienne un pays à 50% musulman. Est-ce qu'on dirait que la France n'a pas changé parce que tous ces gens-là ont la nationalité française? Ou est-ce qu'on dirait le changement de religion, le changement de culture, le changement de mœurs, ça veut dire quelque chose sur l'identité même du peuple français? Donc c'est assez intéressant de voir comment elle nie, elle se réfugie dans la fiction juridique pour ne pas avouer que quand un pays change de population, il change tout simplement d'identité. J'ajoute une chose qui me semble assez importante. Comment fonctionne la dynamique de submersion migratoire et du communautarisme? Vous avez de l'immigration, et là, vous en recevez au-delà de vos capacités d'intégration et d'assimilation. Mais à ce moment, vous ne cessez pas d'en recevoir, vous continuez d'en recevoir. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, des communautarismes se forment, et les immigrés qui arrivent ne s'intègrent plus à la nation d'accueil. Il y en a qui s'intègrent, évidemment, je ne dis pas le contraire, mais il y en a beaucoup qui s'intègrent à ces communautarismes qui ont pris forme, qui sont un effet de débordement démographique. Donc, vous recevez plus que vous êtes capable d'intégrer, vous recevez plus que ce que vous êtes capable d'assimiler, des communautés se forment, des communautarismes se forment, ces communautarismes, à terme, réclament une forme de souveraineté implicite sur certaines parties du territoire, ce qui amène Bruno Retailleau cette semaine à dire que la charia s'applique sur plusieurs parties du territoire français. Donc, on est dans une logique de négation, ce qui amène, soit dit en passant, sur un autre registre, Marie Toussaint, dans un autre débat d'ailleurs avec Marjorie Maréchal, c'était sa semaine, à dire que le burkini dans les piscines municipales, pas de souci, c'est dans le respect du vivre ensemble et pour peu que ça se fasse en bonne entente avec les administrés. Donc, au nom du burkini, du vivre ensemble, on permet le burkini et c'est s'opposer au burkini qui devient discriminatoire. J'ajoute une chose, parce qu'il y a plusieurs éléments ajoutés. Plus la différence culturelle est grande entre la population d'origine et la population d'accueil, plus, et si vous avez en plus une différence civilisationnelle, plus l'intégration et l'assimilation sera compliquée. Donc si vous avez le nombre, plus une différence culturelle très marquée, ça va être encore plus difficile. Ce pourquoi on est tout à fait en droit de dire que c'était plus facile d'intégrer des réfugiés ukrainiens que des réfugiés venant d'autres parties du monde. C'est simple bon sens à travers cela. Dernier élément, dans ce premier survol, comment, autrement dit, on réussit à nier? En fait, quand on ne nie plus la submersion migratoire, on va nous dire, en fait, elle a toujours eu lieu. Elle a toujours eu lieu, donc il n'y a pas de submersion, parce qu'elle a toujours eu lieu depuis la nuit des temps. Donc de quoi vous inquiétez-vous? Cette identité n'existe pas, elle n'a qu'un seul élément d'identité française, c'est une tradition d'ouverture à l'immigration. Ou alors on dit... Elle est irréversible, on ne s'y attendait pas, mais là, ça a tout bouleversé, on ne peut pas revenir en arrière. Ou alors, c'est l'argument de Raphaël Glucksmann qui nous dit, mais c'est absolument essentiel pour notre économie s'effondrerait. Donc, la France a besoin de cette immigration massive pour fonctionner. Ce que nous dit aussi Mme Valérie Ayer, lorsqu'elle dit comment ça fonctionnerait dans nos restos et pour le ménage si on n'avait pas ces populations qui viennent de loin pour faire ce travail. Ce qui est une manière un peu étonnante de réhabiliter l'idée du travail sous-payé pour être capable de satisfaire les besoins des bourgeois.
Mathieu Bocoté, le pacte européen sur l'asile et les migrations se présente pourtant comme une grande avancée pour réguler l'immigration au sein de l'Union européenne. N'est-ce pas une reconnaissance de la part des élites mondialisées que vous critiquez qu'il y a bien un problème et qu'il faut le régler ?
Ah, ça c'est le moment de l'aveu à demi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend ? On dit non, il n'y a pas de problème d'immigration, mais ailleurs on fait un pacte au niveau européen pour s'assurer de régler le problème. Mais pourquoi voulez-vous régler le problème s'il n'y a pas de problème ? Mon cerveau, il capote devant ça. Mais qu'est-ce que je vois devant cette réalité ? C'est que c'est la reconnaissance première, c'est-à-dire, bon, on a des peuples qui nous disent qu'ils sont submergés. On doit au moins donner l'impression qu'on tient compte de leur point de vue. Donc, on dit, là, on va maîtriser l'immigration. Mais on n'est pas assez attentif, je crois, au vocabulaire des élites, de l'oligarchie européenne, en fait. Un mélange d'oligarchie et de nomenclatura qu'on a à Bruxelles. Mais qu'est-ce qu'on nous dit ? Que le pacte sur l'immigration va permettre d'organiser et d'encadrer l'immigration massive. Non pas de stopper l'immigration massive, ce n'est pas l'objectif. D'ailleurs, quand on écoute Mme Johansson, dont on a souvent parlé ici, elle dit qu'il faut favoriser l'immigration massive. La nomenclatura bruxelloise et l'oligarchie européiste veut une immigration massive et considère que ce pacte va permettre de favoriser l'immigration massive tout en l'encadrant pour limiter ses aspérités. Donc, c'est une machine, on connaît la méthode, ça transforme l'immigration irrégulière en immigration dite régulière, ça transforme les immigrés illégaux en immigrés légaux, et dès lors, on nous dit, mais les procédures juridiques ont été respectées, il n'y a pas de problème. Et Raphaël Glucksmann, pour le redire son nom, ah oui, non, mais c'est intéressant, moi j'aime ce que dit, les politiques qui sont les intellos, c'est intéressant parce qu'ils développent leurs arguments. Et Glucksmann, qui est un type intelligent, qui dira le contraire, nous dit, les Français n'ont pas de problème avec l'immigration fondamentalement. Ils ont des problèmes avec le fait qu'elle soit mal encadrée. On pourrait voir là-dedans quelque chose comme une déconnexion par rapport, certainement pas de son électorat, une déconnexion qui est un électorat globalement. Vous avez noté, parenthèse, la fascination médiatique dans la presse de gauche pour Raphaël Glucksmann. On nous présente ça comme une forme de fusée.
Remontada.
Oui, non, ouais. C'est assez. Et là, c'est comme on sent un enthousiasme chez ceux qui décrivent sa campagne. On pourrait presque croire qu'on témoigne ici de sympathie pour lui. Ouf. Mais quoi qu'il en soit, il nous dit il n'y a pas de problème avec l'immigration massive. Il n'y en a pas, il faut simplement l'encadrer. Dès lors, aucun souci. Autre chose, au cœur de ce pacte, il faut quand même comprendre, il y a un élément plus important que tous les autres, c'est l'absolutisation du droit d'asile. Le droit d'asile est plus important que tout. Tout le reste doit être inféodé au droit d'asile qui devient le droit fondateur de l'identité européenne, ce qui nous rappelle de ce point de vue qu'on est dans une vision très habermasienne de l'Europe. L'Europe, qu'est-ce que c'est? C'est Habermas, le philosophe qu'a déjà cité Emmanuel Macron, soit dit en passant, positivement. Donc, on nous présente qu'est-ce que c'est l'Europe? C'est la procédure. C'est l'état de droit, c'est une certaine conception de l'économie de marché régulée, c'est une nomenclatura, c'est une oligarchie, c'est le refus de la souveraineté des peuples, ou à tout le moins une souveraineté limitée pour les peuples, c'est la programmation d'une transformation de leur identité et de la composition démographique. De ce point de vue, j'aimerais dire de l'Union européenne, qu'elle était la civilisation européenne, ce que l'URSS était à la Russie, on revient toujours à cette comparaison.
On apprenait cette semaine, Mathieu Bocoté, sans surprise, que le Conseil constitutionnel refusait la tenue d'un référendum sur l'immigration. Et cette décision ne risque-t-elle pas de radicaliser la crise démocratique autour de cette question migratoire ?
Ah ben absolument. Là, on touche, on flirte avec la crise de régime. Je pense que tout nous y conduit, mais là, on touche à l'essentiel. Alors, il ne faut jamais oublier que l'immigration massive n'a jamais été désirée par les Français. Ils l'ont subie. On a commencé à leur dire qu'elle n'avait pas lieu, que ça n'existait pas, non, que c'était une fabulation. Et quand les Français, devant cette fabulation qu'on leur prêtait, ont quand même dit « non, ça existe ». Donc, il a commencé à avoir des mouvements politiques, populaires, pour réagir à l'immigration massive. On les a diabolisés de telle manière que le prix à payer socialement, culturellement, financièrement, économiquement, politiquement, pour marquer son opposition à l'immigration massive était très, très, très élevé. Le dogme du régime, c'est l'immigration massive. Et quand, donc, ces mouvements, on a créé tout un dispositif juridique pour pénaliser et criminaliser ceux qui remettaient en question l'immigration massive et qui ne croyaient pas au récit de la diversité heureuse. Et on voit, soit dit en passant, on a parlé cette semaine de l'affaire des Némésis, hein, vous savez, les jeunes militantes féministes identitaires. L'une d'entre elles a présenté une affiche, je crois que c'était à Besançon, « Violeurs étrangers d'or », quelque chose comme ça, « Expulser les violeurs étrangers de France », c'est une affiche. On en pense qu'on veut, on peut être d'accord ou non, la question n'est pas là. Mais elle a eu des sanctions, donc garde à vue pour cela, perquisition chez elle pour cela. Je note que dans la même ville, le même procureur, ça nous vient de l'incorrect d'ailleurs, qui nous a donné l'information, c'est Emmanuel Rechberg, qui nous dit le procureur de la République de Besançon qui a mis en garde à vue la jeune militante qui a mis violeur étranger dehors, avait décidé qu'il n'y avait aucun problème, classé sans suite, une pancarte qui était « un flic, une balle ». lors d'une manifestation à Besançon, qui était, je devine, moins grave que ce que disait cette militante de Némésis qui disait « les violeurs étrangers, expulsez-les ». Je devine que si elle avait dit « n'expulsez pas les violeurs étrangers », elle n'aurait pas eu de soucis avec la justice. Alors, on y revient, cela dit, sur la question du référendum. Le référendum, c'est quoi? C'est la volonté de s'emparer de cette question par la souveraineté populaire. Parce que le régime tel qu'il existe aujourd'hui n'est plus capable de régler la question de l'immigration massive. Donc, il faut réinjecter du politique, il faut réinjecter de la souveraineté, il faut réinjecter le peuple dans la vie politique à travers cela. Et le régime ne le souhaite pas, le régime le refuse, le régime veut censurer la possibilité que la souveraineté populaire s'empare de la question de l'immigration massive. Il y a donc une tension entre deux légitimités. Voilà pourquoi je dis tout cela, comme nous le suggérait Marcel Gauchet d'ailleurs, nous conduit à une crise de régime semblable à celle de 1958.
Arthur de Vatrigan, la submersion migratoire, c'est un mythe. C'est finalement ce qui permet d'alimenter le jeu, la politique de l'extrême droite.
Ah, si vous comprenez quelque chose de la feuille de route de nos gouvernants sur la politique migratoire, vous me prévenez. Parce que si on reprend la chronologie depuis 10 ans, on n'est quand même pas très loin de la bipolarité, quoi. Ils ont commencé par nous expliquer, ça va bien se passer. Si vous pensez l'inverse, c'est que vous êtes des racistes. Ensuite, quand ça a commencé un peu à se voir, ils ont dit ça n'existe pas. Plus c'est gros, plus ça passe. Pas de submersion. Je rappelle, 1,5 million d'immigrés légaux en un quinquennat, ça représente 2% de la population française. Et vous ajoutez les 900 000 officiels immigrés illégaux. Bon, même avec même Arban, le verra un peu, quoi. Ensuite, ils nous ont dit, bon, bah, on peut rien faire. À l'échelle française, c'est trop compliqué. Donc, on va le faire à l'échelle européenne. Ah, ça tombe bien, il y a un pacte de migration. Tout ça avec la voix mielleuse d'un imam face à un mouton jour de l'Aïd. Et même Maya Maillet nous a dit, sans préliminaire, dans 2 ans, c'est réglé, plus de Lampedusa. C'est-à-dire, quand on ment et qu'il atteint la plombe, normalement, on prévient, quoi. On porte un écriteau, comme disait Audiard. Après, ils ont dit, à l'immigration, ils reprennent le vieux slogan, l'immigration, c'est une chance pour la France. Une chance pour la France, pourquoi? Parce que bah, sinon, votre ville ressemble à un bidonville. En gros, c'est ce qu'ils disent, hein, plus de poubelles, plus d'éboueurs, plus de femmes de ménage, plus rien. Bon, Paris, il y a des immigrés, je crois, et peut-être que c'est à cause de Madame Hidalgo, ça représente dans certains quartiers à un bidonville. Et bizarrement, dans mon village du Périgord, il n'y a pas un seul Chateaubriand qui vient de Kaboul, et pourtant les bistrots tournent et les poubelles sont ramassées. Mais là où ils sont fascinants, c'est qu'ils se prennent le réel en pleine tronche à chaque fois, et ils continuent à mentir en expliquant que oui, c'est une chance pour la France. Alors c'est tellement une chance pour la France que bah, il y a notre sultan turc à côté qui fait du chantage aux migrants tous les ans pour récupérer du pognon de l'Union européenne, donc des Français. C'est tellement une chance pour la France qu'il y a des territoires entiers qui sont sécessionnistes, et ça c'est reconnu par même des ministres de l'Intérieur français. C'est tellement une chance pour la France qu'il y a des jeunes femmes aujourd'hui qui sont obligées de prendre les transports en commun avec des blouses zippées jusqu'à la glotte au cas où elles se feraient agresser. Et c'est tellement une chance pour la France que les catholiques se font zigouiller à Nantes. À Nice, pardon, que les profs se font égorger et que même des enfants se font lyncher au nom d'un sens de l'honneur qui est encore plus ancien que la préhistoire. Mais ce qui nous explique tout ça, c'est pas très grave finalement parce que ce sont des faits divers. Ce qui compte, c'est que les grands patrons continuent à exploiter la main-d'œuvre pas chère pour faire le sale boulot et payer le moins possible. En échange, ils font des soutiens de vote ou financiers aux élections. Et nos candidats, on les a vus, Monsieur Glucksmann et Madame Hayet, mais d'autres également, bah, ils disent que c'est une chance pour la France. Pourquoi? Bah, parce que ça leur permet de se faire livrer leur salade Goubourg à 11h du soir, après que, en vélo évidemment, parce qu'ils sont écolos, après que leur nurse ivoirienne ait couché les enfants et que leur boniche importée ait illustré leur parquet haussmannien, la Cire Louis XIII. Donc, mais tout ça, ils nous expliquent qu'en plus c'est une chance, mais en plus, je rappelle que ça coûte pas cher, c'est 53,9 milliards d'euros par an aux contribuables français, le coût de l'immigration.
Deuxième sujet, Mathieu Bock-Côté, à présent, de nombreux événements cette semaine ont mis en scène des tensions internes au sein de l'islam de France. Des tensions entre des musulmans qui souhaitent vivre à la française et d'autres qui veulent imposer les codes rigides de l'islamisme. Et tel sera le sujet de votre second édito.
Oui, je pense que c'est vraiment la trame de fond de cette semaine, hein, de ce point de vue. On a, vous savez, c'est une discussion qui revient en boucle sur les plateaux de télé, et pas seulement, même dans l'université, hein, dans comment distinguer l'islam de l'islamisme. Et là, on est dans une situation où cette distinction est réelle, c'est-à-dire on voit des musulmans qui vivent en France, et plus encore, qui ne sont, vivent pas seulement sur le territoire français, mais qui veulent vivre culturellement comme des Français, qui ont entrepris un parcours d'assimilation. Ça ne va pas toujours de soi, hein. Mais donc, ils font le choix de l'assimilation, et je pense que ça, on ne peut que le célébrer, mais qui sont pour cela punis et sanctionnés par un islamisme conquérant qui se conjugue à la logique du crime d'honneur, quelquefois, et un islamisme conquérant qui s'est donné comme objectif d'exercer sa souveraineté et son pouvoir sur l'islam de France. En gros, les islamistes disent « les musulmans nous appartiennent, et les musulmans, vous ne vivrez pas comme des Français, et si vous osez vivre comme des Français, vous allez le payer. Vous allez le... Alors, on a quelques histoires en tête. Et vu comme un Français, ça peut vouloir dire simplement, pour une jeune femme, retirer le voile. Ça veut dire, pour un jeune homme, se permettre de sortir du refoulement sexuel extrême qui peut venir avec certaines religions, et puis se dire, bon, j'essaie de draguer une jeune fille. Ça peut être décider de manger pendant le ramadan alors que c'est pas permis par les gardiens les plus intégristes d'une certaine religion. Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers cela? On voit des jeunes Français, souvent, qui disent, j'ai envie de vivre à la française. La France m'intéresse. Et vous avez des islamistes qui disent, vous ne vivrez pas à la française et vous allez payer pour ça. On a parlé la semaine dernière de l'affaire de la jeune Samara. On a parlé de Shamsedine. On a vu ce qui s'est passé à Bordeaux sur la question de l'alcool. Et c'est pas un détail. Moi, j'ai vu, je sais pas, je pense que c'est l'AFP qui disait, une querelle autour de l'alcool à Bordeaux. Mais il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles.
Ils sont, justement, une heure plus tard, ils ont rajouté lié à l'Aïd.
Oui, d'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la première version avant qu'elle soit corrigée par la puissance des faits. C'est-à-dire, on va quand même pas oublier la première version. C'est comme quand Madame Belloubet a d'abord condamné Mila avant de ne pas la condamner ensuite. Moi, je m'intéresse à la première version des gens. Or, qu'est-ce qu'on voit dans cette séquence? Eh bien, l'alcool, les rapports entre les hommes et les femmes, la nourriture, c'est la question des mœurs. Et là, c'est à ce moment-là qu'on voit que le voile n'est pas, quoi qu'on en dise, c'est vraiment l'expression d'une spiritualité intérieure. C'est un marqueur social pour s'assurer de vous, nous appartenez, vous ne sortirez pas de la communauté. Et quand, et ce qui est intéressant, c'est notre réponse devant cela. Notre réponse, si on se contente de dire valeurs de la modernité, valeurs de la République, valeurs libérales, les droits de l'homme, tout ça, c'est très bien, là. Mais c'est pas assez, parce que l'islamisme propose des mœurs. L'islamisme propose un code sévère. L'islamisme dit un encadrement de la vie. Et si nous n'avons rien d'autre à offrir au niveau des mœurs, alors c'est là qu'on, on trébuche. Parce que qu'est-ce qu'on s'est dit depuis 50 ans en Occident? Eh bien, les mœurs, c'est privé. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, ce qui est une très bonne chose en général, mais ça présuppose un cadre culturel partagé. Or, qu'est-ce qu'on voit? Si on a seulement notre relativisme à offrir à leur fanatisme, bien, le fanatisme l'emportera. Donc tout ça nous oblige à nous poser la question, que veut dire aujourd'hui être français, être italien, être allemand, être québécois, faites la liste? De quelle manière réagir à cette offensive où on cherche à s'emparer du corps des jeunes, souvent et des jeunes femmes en particulier, pour les transformer en étendards de communauté, en les sanctionnant s'ils ne respectent pas les règles?
Mathieu Bacoté, vous parlez de choc de civilisation au quotidien, mais ne sommes-nous pas en train de nous habituer justement à ce choc?
Ah ben oui, je pense que... Regardez ce qui se passe. Théoriquement, chacun de ces événements devrait susciter une marche immense où la République se mobiliserait pour dire plus jamais ça. Mais on s'est habitué. On sait qu'il y aura d'autres attentats terroristes. On sait qu'il y aura d'autres Samuel Paty. On fait tout pour que ça n'arrive pas. Mais on sait que c'est inscrit dans la logique des événements où à tout moment, il y aura des tentatives de faire des Samuel Paty. On sait que l'expression « je vais te faire une Samuel Paty » est entrée dans les mœurs en certains lieux. On sait qu'un professeur non musulman qui voudrait se permettrait de boire de l'eau, par exemple, à l'école dans une bonne classe d'une autre confession, eh bien, il risque, sinon sa peau, n'exagérons pas, mais il risque certainement des sanctions dans un environnement difficile. Et là, qu'est-ce qu'on voit à travers tout ça? Ça veut dire que c'est une reconquête culturelle qui est nécessaire, mais ça ne se fait pas le temps d'un mandat démocratique. Ça ne se fait pas en quelques jours, ça ne se fait pas en quelques semaines, ça ne se fait pas en quelques années même, ça se fait en une génération. Être capable de faire en sorte que tous ceux qui, en France, sont musulmans ou d'une autre religion, mais qui veulent vivre à la française, et il y en a, et c'est pour ça qu'il faut le rappeler à tous ceux qui disent qu'il n'y en a pas, il y en a. Mais pour cela, il faut leur offrir un projet, et il faut combattre surtout ceux qui veulent les enrégimenter à tout prix en les transformant en soldats d'une idéologie qu'ils refusent. Mais ça, c'est la bataille d'une génération, de deux générations, de trois générations. La première condition pour la gagner, c'est d'abord de l'entamer.
L'islamisme qui aujourd'hui est à la conquête de l'islam de France et donc ce choc des civilisations auquel on est en train de s'habituer, Arthur de Vatrigan.
La France subit l'islam politique en feu croisé. Vous avez Parlot avec les Frères musulmans. Les enquêtes l'ont montré, qu'ils infiltrent les institutions, les ONG françaises, européennes et même les élus. Vous avez par le bas avec les salafistes qui, on l'a vu ces derniers jours, justement, visent des Français d'origine immigrée et ou musulmans parce qu'ils sont trop assimilés. Et vous avez évidemment la technique au bazooka de l'État islamiste et là qui attaque notre civilisation. Sauf que la question, c'est la différence islam, islamisme, minorité, majorité. Il y a une étude de l'IFOP, rappelez-vous, sur une enquête sur les Français musulmans. 16% des musulmans ne condamnaient pas totalement l'auteur de l'assassinat de Dominique Bernard. 72% des musulmans sont contre l'interdiction des ports de la baïa, Camille, Djellaba à l'école. 78% des musulmans jugent que la laïcité est discriminatoire envers les musulmans. Et plus de 50% sont pour que les élèves n'assistent pas aux cours si le contenu heurte leurs convictions religieuses. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Premièrement, c'est qu'il faudra arrêter de prendre les Français pour des buses en brandissant soit le diagnostic médical, soit l'argument de la minorité à chaque offensive islamique. Non, c'est pas une minorité, malheureusement. Deux, que le travail de ça, d'une grande partie de la gauche et de nos progressistes pendant des décennies pour faire de la France non plus une réalité historique, mais un territoire administratif uniquement avec une logique de droit, une franche réussite. Ils ont labouré la terre, les islamistes arrivent et plantent les graines. Trois, qu'il sera temps d'arrêter de parler de séparatisme et de conquête. Et enfin, qu'on arrête de parler de religion. C'est pas une religion, c'est une civilisation clé en main qu'on appelle aussi l'islam.
Merci à tous les deux. On revient dans un instant. On va recevoir Pierre Valentin qui a écrit « Comprendre l'idéologie woke ». Et j'ai cru comprendre également qu'il ne partira pas en vacances avec une certaine Sandrine Rousseau. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. A tout de suite pour la deuxième partie de « Face à Mathieu Bock-Côté ». 19h30 sur CNews pour la suite de Face à Mathieu Bock-Côté, toujours avec Mathieu bien sûr et Arthur de Vatrigan. Nous a rejoint sur le plateau Pierre Valentin, merci d'être avec nous. Comprendre la révolution woke, on en parle dans un instant après le point sur l'information avec Mickaël Dos Santos.
6 morts, 8 blessés, dont un bébé de 9 mois. C'est le bilan provisoire de l'attaque survenue ce matin à Sydney en Australie. Un homme armé d'un couteau s'en est pris au hasard à des clients dans un centre commercial. L'assaillant a fini par être abattu. La piste terroriste n'est pour le moment pas privilégiée. Après l'assassinat d'un berger israélien de 14 ans hier en Cisjordanie, le Premier ministre Benjamin Netanyahou dénonce un crime odieux. La police et les services de renseignement de l'État hébreu évoquent même une attaque terroriste. Depuis sa mort, des affrontements entre Palestiniens et Israéliens auraient fait au moins un mort et des dizaines de blessés. Enfin, les évacuations continuent. Au Kazakhstan, plus de 100 000 personnes ont été évacuées à cause de la montée des eaux de l'Oural. Des milliers de personnes ont également dû quitter leur logement en Russie. Ces crues sont liées aux fortes pluies, à la hausse des températures et à la fonte des neiges.
Merci Mickaël pour le point sur l'information. Pierre Valentin, donc auteur de Comprendre la révolution woke. Pourquoi avoir invité Pierre Valentin ce soir, Mathieu Bock-Côté?
Alors, le mot woke est apparu il y a quelques années dans notre vie intellectuelle, notre vie politique, et il y a une espèce d'effet météore. Tout le monde s'en est emparé, tout le monde avait quelque chose à dire sur le sujet, et ensuite, c'est comme s'il était passé de mode. Hein, on est passé à autre chose, ça ne compte plus. Mais la question de la révolution woke, s'il y a vraiment révolution woke, eh bien, il se peut que cette révolution, nous nous y soyons habitués. C'est-à-dire, elle est aujourd'hui partout présente, mais on ne la comprend pas. Donc, pour chercher à la comprendre, dans ces manifestations, pas seulement dans le monde des idées, mais dans ces manifestations, nous recevons Pierre Valentin. Pierre Valentin, bonjour.
Bonjour.
Alors, comprendre la révolution woke, il y a quelques années, le terme ne nous était pas familier. Aujourd'hui, on le comprend. Si vous deviez le définir, simplement, première chose, définir le wokisme en quelques mots.
C'est une idéologie qui perçoit les sociétés occidentales comme étant fondamentalement régies par des structures de pouvoir, des hiérarchies de domination, des systèmes d'oppression, qui ont pour but, ou en tout cas pour effet, d'inférioriser l'autre avec un grand A, c'est-à-dire la figure de la minorité sous toutes ses formes, par des moyens souvent invisibles, la langue. Et le woke, l'éveillé, c'est celui qui a pris conscience de cet état de réalité néfaste, caché, et qui se donne pour mission dans la vie d'aller éveiller, d'aller conscientiser les autres. Et ces méthodes sont l'annulation et la négation sous toutes ses formes, donc négation de nos structures sociales parce que néfastes, négation de nos grandes figures historiques, de nos statuts, etc. Et c'est pour ça que j'ai choisi de titrer le premier chapitre La Grande Négation, parce que je voulais mettre cette dimension qui est le seul fil rouge, à mon sens, possible au sein des contradictions du wokisme, de l'action de ces militants.
Alors, on essaie de comprendre le wokisme, vous avez évoqué les statuts, tout ça, mais j'ai l'impression que ça c'est l'étape, la première étape, étape 2020, peut-être un peu avant, 2020-2021. Là, aujourd'hui, le wokisme, pour peu qu'on le prenne au sérieux, semble avoir pénétré notre société de mille manières. Et je vous donne un exemple qui sort de l'actualité la plus récente. Nicole Belloubet, qui propose des cours d'empathie à l'école. Et devant la situation qui s'aggrave, la violence qui s'aggrave dans les écoles françaises, elle dit qu'il faut plus de cours d'empathie. Est-ce qu'on n'est pas, avec cette approche-là, dans une forme de suite logique du wokisme appliqué à la pédagogie à l'école?
Je dirais que, je ne sais pas si l'empathie est woke nécessairement, mais en tout cas...
Non, mais l'idéologisation de l'empathie.
J'entends. Il y a eu M6 récemment qui a mis une séquence sur les réseaux sociaux qui est devenue virale, d'une jeune élève qui se fait harceler pendant 3 longues minutes, et difficilement d'ailleurs soutenable jusqu'au bout. Et on a une professeure qui n'ose pas vraiment trancher entre les victimes et les bourreaux, sans doute parce qu'elle a trop d'empathie ou trop de lâcheté. C'est parfois le problème de l'empathie aussi, c'est que ça peut maquiller de la lâcheté vis-à-vis de ce jeune harceleur et qui refuse de l'exclure, en tout cas qui met les deux au même niveau. L'empathie, elle n'est qu'une chose bonne lorsqu'elle est dirigée dans une bonne direction, si vous voulez. Et je pense que le wokisme, plus généralement, n'a pas vraiment d'empathie pour ceux qui s'opposent au wokisme. C'est comme ça que je reformulerai peut-être la question, qui est que le dominant, le majoritaire, ceux qu'ils appellent assez facilement, assez souplement le réactionnaire, on peut aller jusqu'à une déshumanisation totale de leur personne. Et là, pour le coup, l'empathie vis-à-vis des ennemis de l'empathie n'est pas permise. C'est-à-dire qu'on peut, on a vu ça avec des hommes politiques au Royaume-Uni, leur retirer leur compte bancaire. On peut les poursuivre en justice. On peut légitimer, par exemple, le fait de tabasser des personnes dites transphobes parce qu'elles contestent l'idéologie transidentitaire. Et là, pour ces gens-là, il n'y aura pas d'empathie parce qu'ils poussent dans le mauvais sens de l'histoire et donc on peut tout leur faire. Donc c'est pour ça que je pense que cette notion d'empathie est toujours à double tranchant et personne n'est jamais plein d'empathie jusqu'au bout et c'est les premiers à tolérer de larges exceptions à cette notion d'empathie lorsque ça les arrange.
Alors, vous l'avez mentionné, on peut par exemple tabasser une personne accusée de transphobie. On peut aussi, dans certains cas, lorsqu'on est devant des crimes, je pense à Crépol ici il y a quelques mois, mais nous ne sommes pas de ceux qui avons oublié ces événements, où on a des gens qui disent on veut planter du blanc. Quelqu'un dirait on veut planter du noir, tout le monde y verrait un racisme anti-noir atroce. Quelqu'un dirait on veut planter de l'arabe, on y verrait un racisme anti-arabe atroce, avec raison. Planter du blanc, alors là, c'est pas du racisme, et on a eu tout le système médiatique pour nous expliquer que c'était pas du racisme parce que le racisme anti-blanc n'existait pas. Est-ce que c'est aussi une manifestation du wokisme?
Oui, tout à fait. Là, on est en plein dedans, c'est-à-dire que je parlais de système d'oppression, tout fonctionne en système chez eux. Tout fonctionne par opposition à une abstraction négative. Et d'ailleurs, on notera que dans leur logiciel, il y a une quantité très importante de synonymes du terme système. Il y a l'hétéro-patriarcat, il y a le blanc-triarcat, donc ça c'est un mélange de blanc et de patriarcat. Il y a le système écrit CIS, thème, ce qui veut dire cisgenre, ceux qui ne sont pas transgenres, qui formeraient un système.
Expliquez pour tous ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion cisgenre un instant.
Cisgenre, c'est un homme qui s'identifie comme un homme et une femme qui s'identifie comme une femme. Pour faire simple.
Ce qu'on appelait depuis la nuit des temps...
Un homme et une femme.
Voilà. Et que, mais aujourd'hui, il y a un nouveau nombre.
Il y a un nouveau nombre. Enfin, il y a une tautologisation du réel où il faut repréciser. Bon. Et lorsque le militant veut avoir une sorte de légitimité morale, il faut qu'il s'oppose à une abstraction négative. Donc là, en l'occurrence, l'antiracisme se conçoit comme quelque chose de systémique, c'est-à-dire qu'il faut lutter contre le système en place et le remplacer par un système bon. Ce qui fait que la personne blanche forcément participe à un système de pouvoir et ceux qui s'opposent à ce système sont de courageux petits dissidents, de petits David contre un immense Goliath face auquel on a le droit de tout faire. Si on se raconte l'histoire d'un David contre Goliath, on a le droit de lancer des pierres, on a le droit de lapider son adversaire parce qu'après tout nous sommes faibles, nous sommes face à un système. Et juste un exemple là-dessus, il y a eu le procès récemment de Tahab Ouafs. Et il a été accusé de racisme parce qu'il avait insulté la syndicaliste de police Linda Kebab en la traitant d'arabe de service. Là aussi, qui se permet dans l'espace public d'utiliser ces termes, si ce n'est les gens issus de la mouvance woke. Et on a vu un certain nombre d'universitaires français venir à son procès pour essayer de défendre Tahab Ouafs dans l'optique, à mon sens, éminemment idéologique, de ne pas laisser l'étiquette de raciste être officiellement collée sur l'un des leurs, parce que le racisme, c'est forcément ce que font les Blancs, et ça ne peut pas être quelque chose issu de la part de non-Blancs.
Arthur de Latrigan.
Je vais en parler des intellectuels. On voit beaucoup dans le monde intellectuel de gauche, mais aussi médiatique, politique, culturel, ces nouveaux éléments de langage, ces nouveaux arguments, ces nouvelles thèses. Comment la gauche, à tout le moins, a-t-elle été aussi grignotée, aussi rapidement, par le wokisme en France ?
Moi, je pense que, en règle générale, j'essaie d'éviter ce qu'on appelle les explications météorites. C'est-à-dire, tout se passait très bien dans notre magnifique petit monde. Et là, une météorite, c'est-à-dire quelque chose d'extraordinairement rapide, extérieur, extraterrestre, imprévisible, et de nous percuter, tout a changé. Je pense qu'il faut plutôt aller sur l'explication de la gauche qui se fait grignoter de l'intérieur en l'espace de quelques années, vers des explications un peu plus de l'ordre de « le ver est dans le fruit ». C'est-à-dire que même si on prend la métaphore du cheval de Troie, les portes sont ouvertes de l'intérieur. Même en analysant l'habilité d'un virus, ça n'explique pas la faiblesse des anticorps. Bon, je pense que la gauche a accepté en son sein un certain nombre de bombes à retardement idéologique qui aujourd'hui explosent. L'une d'entre elles, c'est le jeunisme. Si vous avez 20 ans en 68, vous avez tout intérêt à dire les jeunes ont toujours raison, quel que soit le contexte, particulièrement lorsqu'ils accablent la vieille société. Lorsque vous prenez 55 ans dans les jambes et que vous avez 75 ans et que vous avez un jeune de 20 ans qui vous dit « ok boomer » et qui vous dit « les jeunes ont toujours raison et d'ailleurs vous avez tort », votre transgression a été transgressée. Si vous voulez, c'est la suite logique des choses. Et je pense que ça explique une partie de la non-réaction de la gauche dans la mesure où ils étaient face à une jeune génération qui les insultait, qui traitait leurs idées de vieilles idées dépassées. Dans la phrase « les nouveaux damnés de la Terre », le premier mot est, a une certaine importance. Un autre exemple de bombardement idéologique, c'est, je dirais, le rapport à la figure de l'autre, l'autre avec un grand A, celui qui n'est pas comme nous a toujours raison, dans la question du genre, la philosophie queer, qui d'ailleurs n'a pas de définition positive, ce qui est queer, c'est uniquement ce qui s'oppose à ce qu'ils appellent le normal, le légitime et le dominant. Il y a cette figure du transgenre, de l'insaisissable, de celui qui brouille les catégories qui a été mise en avant. Et donc, lorsque quelqu'un trouve des nouveaux damnés de la Terre, d'un seul coup, il devient vraiment de gauche parce qu'il a déniché une nouvelle minorité, de nouvelles victimes. Et tous ses adversaires, même s'ils sont de gauche, vont être catégorisés comme étant de droite, voire d'extrême droite, parce qu'ils s'opposent à ceux qui ont de l'empathie vis-à-vis des nouveaux damnés de la Terre, des nouvelles minorités. Et ça, c'est pour le coup une bombe à retardement idéologique qui a fait des dégâts considérables au sein de la gauche et dont je pense que la gauche n'a pas fini de payer le prix aujourd'hui.
Alors, je vous fais un instant historien des civilisations. Vous allez voir. D'un côté, on a le wokisme, de l'autre côté, on a l'islamisme. On se demande quel est le lien entre les deux. Si je vous disais, vous me donnez votre avis sur l'analyse, le wokisme détruit complètement le système immunitaire des sociétés occidentales, les paralyse, les rend absolument incapables de se défendre, ce qui favorise l'entrée de l'islamisme, qui lui n'a pas les mêmes prévenances, et c'est même instrumentaliser les droits et libertés proposés par la société occidentale pour les retourner contre elle. Donc est-ce qu'on peut dire que le wokisme détruit de l'intérieur, quitte à provoquer un effondrement psychique, et ça rend possible la pénétration de l'islamisme?
Moi, je pense que c'est tout à fait ça. Je parlais de la figure de l'autre tout à l'heure. Je pense que l'année 1989, si on veut faire les historiens, a été particulièrement charnière dans la mesure où c'est l'année dans laquelle Kimberlé Crenshaw, la théoricienne de l'intersectionnalité, publie son premier article sur la question. C'est l'année où Francis Fukuyama commence à théoriser la fin de l'histoire. D'ailleurs, les deux auteurs cités réécrivent sur le même thème 2 ans plus tard, en 91. Et c'est l'année du foulard de Creil, où là, on a vu la gauche sur un carrefour, obligée de choisir entre deux voies, soit rester cohérent avec une large part de ses principes, c'est-à-dire laïcité, rationalisme, universalisme, féminisme, etc. Chacun de ces ismes ont généré d'innombrables thèses et sont quand même des idoles très conséquentes au sein de la gauche. Mais il y avait une autre idole qui était, dont je vous parlais tout à l'heure, la figure de l'autre avec un grand A. Celui qui n'est pas comme nous, le différent, etc., qui est une idée chrétienne devenue folle, parce que dans un premier temps, cette idée, c'était simplement de se dire ne cédons pas à un pur tribalisme, respectons la figure de l'étranger qui peut nous apprendre des choses, etc. Tout le monde a la même valeur morale face à Dieu, etc. Et progressivement, elle s'est radicalisée, c'est devenu tous ceux qui ne sont pas comme nous a un avantage moral incomparable, il y a des choses à nous apprendre, et va pouvoir nous condamner nous-mêmes, et ça, c'est formidable. Vous êtes formidable parce que vous n'êtes pas comme nous. Et face à ça, la gauche a beaucoup de mal à comprendre que la figure de l'autre avec un grand A pourrait mal s'entendre avec les autres figures de l'autre avec un grand A. Il y a des autres qui n'aiment pas les autres, en quelque sorte, des minorités qui n'aiment pas les minorités. C'est aussi le problème du terme de minorité qui est un peu fourre-tout et qui met dans une même catégorie des choses très différentes. La femme est statistiquement majoritaire et pourtant décrite comme une minorité. Et donc de ce point de vue-là, je pense que la contradiction entre l'islamisme et les autres principes de gauche n'est pas accessible à une grosse part de la gauche, car elle les met toutes sous une même étiquette qui est celle de l'autre et de la minorité.
Alors, la question se pose aussi, comment lutter contre le wokisme? Alors, une partie de la gauche, vous le disiez sur Twitter, je crois, il y a quelques jours, par réflexe anticlérical, en France comme au Québec, dit les nouveaux curés, et puis on en a, c'est bon, les nouvelles soutanes, tous les termes sont utilisés. Donc on mobilise l'anticléricalisme contre le wokisme. Premier élément. Il y a la droite conservatrice ou nationale qui, en cette matière, a été parmi la première à critiquer ça. Et il y a un certain centrisme qui dit « le wokisme est un problème ». Mais ces trois éléments sont incapables de s'entendre et surtout qu'ils cherchent à diaboliser les premiers qui ont vu, hein, les conservateurs, les nationaux, sont diabolisés en disant « vous avez peut-être vu avant les autres, mais vous avez vu pour de mauvaises raisons ». Comment comprendre cela?
Je pense que un des ciments cachés de la gauche, d'une grosse part de la gauche en tout cas depuis plusieurs décennies, c'est l'unité négative. C'est-à-dire que on a des hommes politiques qui assument à gauche d'être rentrés en politique, non pas pour construire et pour œuvrer pour un bien commun quelconque, quel qu'il soit d'ailleurs, mais dans une optique de destruction d'adversaires de droite. Des gens qui disent « je suis rentré en politique pour lutter contre l'extrême droite », plein de gens qui expliquent qu'ils sont engagés en politique à partir de 2002 par exemple, de l'entre-deux-tours. Et ça, c'est une logique que je trouve intéressante. Et un élément qui va dans ce sens-là, c'est Manuel Valls, qui, lorsqu'il a quitté la gauche et la France, a essayé de faire le déménagement inverse dans les deux sens, l'un des deux est possible, l'autre est plus compliqué, ou dans sa stratégie pour redevenir de gauche, il avait plusieurs options. Si on se met à la place de ses conseillers en communication, il aurait pu faire un livre par exemple sur Jaurès, implicitement en se mettant dans ses pas comme une grande figure de gauche, il aurait pu rédiger un programme politique en disant voici les mesures pour faire gagner la gauche. Et c'est pas ce qu'il a fait. Il a fait un livre
contre l'intérêt public.
Voilà, contre le diable de droite du moment. Et là, ça montre que dans l'optique de gauche, la façon de montrer qu'on est vraiment de gauche, c'est qu'on est contre une figure et non pas pour quelque chose. Et ça, je pense que c'est très structurant au sein de la gauche. Et c'est ce qui fait que l'épouvantail anticlérical peut fonctionner un certain temps. C'est ce qui fonctionne aussi étonnamment dans une certaine gauche au Québec pendant un certain temps, de reprendre également les termes, les nouveaux curés de la morale, etc. Mais je pense que la solution pour en sortir, c'est pas de rester dans cette unité négative, dans cette unité archaïque du bouc émissaire que le wokisme et la gauche partagent, pour le coup. C'est également une des bombes à retardement idéologique qui ont fait qu'ils n'ont pas su, à mon sens, bien résister. C'est de proposer, c'est d'offrir une alternative spirituelle, morale, existentielle à une jeune génération. Pour le résumer en une formule, on n'a jamais convaincu qui que ce soit d'abandonner une bouée de sauvetage en lui démontrant qu'elle était de nature cancérigène, si vous voulez. Il faut à ce moment-là proposer autre chose et pas simplement dire « lâchez cette bouée de sauvetage, elle est cancérigène ». Il faut arriver à proposer.
Arthur de Vatrigan.
Sur le wokisme, beaucoup voient ça comme une curiosité. Pour ceux qui essaient de comprendre, le temps qu'ils arrivent à comprendre les nouvelles catégories, les woke avant déjà des nouvelles catégories, donc j'ai toujours un train de retard. Sauf qu'il s'est passé quelque chose, c'est le 7 octobre. Le 7 octobre, les militants woke, si on peut les réunir en ensemble, ont pris parti contre Israël et contre les Juifs. Est-ce que vous pensez que c'est un tournant et que les thèses woke vont survivre au 7 octobre ?
Alors un mot sur le 7 octobre d'abord et ensuite sur le tournant éventuel. Le 7 octobre a été intéressant parce que ça a déchiré le voile de l'empathie, en quelque sorte. Jusqu'ici, le discours, c'était de dire le wokisme n'est que la défense des minorités. Pourquoi vous opposez-vous la défense des minorités ? N'aimez-vous pas les minorités, etc. Et là, on a eu un choix à faire au sein de ces mouvances-là qui est est-ce qu'on défend nos théories ou est-ce qu'on défend nos minorités ? La théorie critique de la race, par exemple, qui est très puissante aux États-Unis, qui explique que, premièrement, le racisme est le pire péché qui existe, jusque-là, on sera d'accord. Et le deuxièmement, qui structure tout l'espace social, qui contrôle tout, c'est un système dont on parlait tout à l'heure qui contrôle tout. Et là, d'un seul coup, on voit aux États-Unis, plutôt progressivement, les Juifs et les Asiatiques, c'est-à-dire deux catégories qui jusqu'ici appartenaient à la catégorie de minorité ethnique, qui surperforment, qui se débrouillent mieux que la moyenne. Et là, les militants ont dit les Juifs sont white adjacent, c'est-à-dire quasi-blancs, proto-blancs, déjà proches de la blanchité qui fait office de mal suprême, et sont symboliquement statués de leur catégorie de minoritaire et leur catégorie d'autres avec un grand A. Donc là, on a vu qu'il n'y avait pas une défense en soi de la minorité, il y avait une défense de la minorité capable d'accabler l'Occident de façon instrumentale à un instant T. Ce n'est pas la même chose. Sur le tournant, je suis un peu plus sceptique que d'autres arguments qu'on entend. Je vais vous citer un sondage, alors états-unien, sur les 18-24 ans réalisé par Harvard Harris en décembre dernier, qui explique qu'à la question « Pensez-vous que les Blancs sont une race d'oppresseurs ?» et qu'il faut favoriser l'idéologie qui dit cela dans les embauches, 79% des 18-24 ans disent oui. Si on poursuit ce bloc générationnel dans le temps, c'est des personnes qui vont sortir des grandes universités américaines, qui vont pouvoir rentrer les mains en haut du guidon dans Coca-Cola, Apple et Nike dans les embauches. Et de ce point de vue-là, on n'est qu'au début de l'influence de cette idéologie. Je pense tout de même que le 7 octobre a eu pour effet de décomplexer la parole critique de gauche et du centre vis-à-vis du wokisme, et que si on part du principe que la culpabilisation et le moteur profond du wokisme est que tout pays non culpabilisé ne peut pas devenir woke, et bien là, la vieille question de l'antisémitisme qui a été utilisée pour diaboliser le monsieur tout le monde français qui n'avait rien demandé, qui n'avait pas collaboré avec Pétain mais qui avait été associé à cette histoire-là, a basculé de l'extrême droite vers l'extrême gauche. Ce qui fait que là, je pense qu'il y a quand même un renversement qui se produit, qui fait que le français moyen est moins culpabilisé parce que d'un seul coup, la question de l'antisémitisme, c'est l'extrême gauche et ça n'est pas le monsieur tout le monde, si vous voulez.
Alors, parlons politique. Dans la classe politique française, qui sont, selon vous, les principaux woke ? Est-ce qu'on les trouve seulement à LFI ? Est-ce qu'on les trouve aussi dans la majorité, dans la Macronie ? Est-ce qu'on en trouve peut-être à droite ? Qui sont, pour vous, les principaux woke de la classe politique française ?
Moi, ça ne m'amuse pas de cibler des noms en particulier. Évidemment...
C'est des hommes et des femmes politiques qui sont là pour être nommés.
Tout à fait. Sandrine Rousseau, sans grande surprise, va être nommée. Réponse facile, je n'ai pas été très créatif là-dessus, je vous l'accorde. Il y en a eu au sein de la majorité. Je me souviens d'un moment où la majorité jouait avec l'idée d'une Marianne un peu transgenre. Donc, je ne sais pas très bien ce que veut dire le « un peu » en l'occurrence. On a eu également, alors a priori ça n'a pas été suivi des faits, mais l'annonce est quand même prescriptrice en soi, le président qui avait annoncé créer un fichier de personnes simplement accusées d'agression sexuelle. On ne sait pas très bien à quoi aurait servi ce fichier. Est-ce que c'est lorsqu'on aurait tapé le nom d'un individu lors d'une recherche d'emploi, il serait apparu dans ce fichier ? Ça, c'est quand même une concession à la logique de victime, on vous croit, qui revient à nier la présomption d'innocence et donc la justice telle qu'on la connaît aujourd'hui, et donc un peu la civilisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est basée sur la présomption d'innocence et le traitement judiciaire des différends et des conflits en société. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a, sans parler de personne nécessairement en particulier, mais une progression implicite de cette idéologie, parce que ce qui se passe, c'est que le wokisme radicalise les termes du débat, et ensuite, le centre-gauche a trop souvent tendance à suivre avec un peu de retard. Je vais vous donner un exemple. L'écriture inclusive. L'écriture inclusive, c'est cette idée que lorsqu'on utilise le neutre, c'est en réalité le dominant. C'est une vieille idée woke, la neutralité, c'est faire le jeu des dominants. Donc, la majorité utilise peu l'écriture inclusive. Par contre, autour de 2017, Emmanuel Macron a commencé à banaliser le toutes et tous et le celles et ceux, qui, stricto sensu, philosophiquement, est rigoureusement la même idée. C'est-à-dire que lorsque je dis tous, je ne parle que des hommes. C'est la même idée que l'écriture inclusive. Donc, ils n'écrivent pas tous.tes, tous, comme fait les militants woke, mais tout de même, ils disent toutes et tous, ce qui est strictement, stricto sensu, la même logique philosophique. Et là, on voit un glissement qui s'opère. C'est-à-dire que, pour utiliser une métaphore, lorsqu'on n'est pas profondément enraciné dans un corpus idéologique, toute opposition ressemble à quelqu'un qui s'oppose à une longue pierre qui avance en ayant les pieds plantés dans la glace et ne fait que reculer tout en ayant le sentiment de s'opposer à quelque chose. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut un corpus idéologique un peu plus épais pour s'opposer à la révolution woke.
Eh bien, merci beaucoup, Pierre Valentin, essayiste, auteur de Comprendre la révolution woke. Merci Mathieu Bocoté, merci Arthur de Vatrigan. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'information et évidemment du débat, puisqu'on sera dans l'heure des pros 2, juste après la publicité. À tout de suite.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.